Emmanuel Kant, La religion dans les limites de la raison, troisième partie, deuxième section. Qui, d'entre ceux qui s'offrent pour entraver le libre développement des dispositions divines, ayant en vue l'amélioration du monde, ou d'entre ceux qui proposent différents obstacles, consentirait, après avoir pris conseil de sa conscience, à répondre de tout le mal qui peut résulter de ces entreprises violentes, capables d'arrêter peut-être pour longtemps le progrès dans le bien, à quoi vise la Providence, et même de le faire retourner en arrière, bien que nulle puissance et nulle institution humaine ne soit en état de le supprimer jamais tout à fait. Le royaume des cieux est enfin, pour ce qui regarde la direction de la Providence, représenté dans cette histoire, non seulement en train de s'approcher, certes fort lentement, à certaines époques, quoique toujours sans arrêt, cependant, mais encore en train de faire son entrée. Il est vrai qu'on peut expliquer comme une représentation symbolique, ayant uniquement pour but de donner plus de force à notre espérance, à notre courage et à nos aspirations vers ce règne, la prophétie qui, dont le livre de l'Apocalypse, comme en des livres sibyllins, vient s'ajouter à ce récit historique pour nous peindre l'achèvement de ce grand changement du monde sous la forme d'un règne visible de Dieu sur la terre. Royaume gouverné par le représentant, le lieutenant de Dieu, descendu de nouveau du ciel, pour nous peindre aussi la félicité dont on jouira sur la terre après que le Seigneur aura mis à part et chassé les rebelles qui essaieront encore une fois de lui résister, ainsi que le complet anéantissement de ces révoltés et de leurs chefs, de sorte que la fin du monde est la conclusion de l'histoire. Le maître évangélique n'a montré à ses disciples que le côté moral, magnifique et sublime du règne de Dieu sur la terre, c'est-à-dire la dignité qu'il y a à faire partie comme citoyen d'un état divin. Et il leur a donné les indications nécessaires sur ce qu'ils devaient faire, non seulement pour arriver eux-mêmes à ce royaume, mais encore pour s'y réunir avec d'autres hommes animés des mêmes sentiments, et si c'est possible, avec tout le genre humain. Quant au bonheur, qui est l'autre partie des vœux que forment inévitablement les âmes, il les avertissait de ne pas y compter dans cette vie terrestre. Il les préparait, par contre, à s'attendre aux plus grandes tribulations, ainsi qu'aux plus grands sacrifices, ajoutant toutefois, parce qu'un entier renoncement à l'élément physique du bonheur ne saurait être demandé à un homme tant qu'il existe. Ouverture de guillemets. Réjouissez-vous et consolez-vous. Tout cela vous sera payé au centuple, au ciel. Fermeture de guillemets. Or, le complément ajouté, comme il a été dit, à l'histoire de l'Église, complément qui est pour objet la destinée future et dernière de cette Église, nous la représente enfin comme triomphante, c'est-à-dire comme ayant vaincu tous les obstacles et comme couronné de bonheur même sur la terre. La séparation des bons avec les méchants qui, tant que l'Église s'avance vers sa perfection, n'aurait pas été compatible avec la fin par elle poursuivie, puisque le mélange des uns aux autres était nécessaire, précisément, soit pour servir à mettre la vertu des bons à l'épreuve, soit pour retirer les méchants du mal, par l'exemple des gens de bien. Nous est représenté comme une ultime conséquence de la fondation complète de l'état divin. À cela vient encore s'ajouter la dernière preuve de la stabilité de cet état, regardée comme une puissance, je veux dire sa victoire, sur les ennemis extérieurs, qui eux aussi sont pareillement regardés comme étant membres d'un état, l'état infernal. Victoire qui met fin à toute la vie d'ici-bas, puisque, ouverture de guillemets, le dernier ennemi des hommes de bien, la mort, est vaincu. Fermeture de guillemets. Et que, des deux côtés, pour le salut des uns et pour la damnation des autres, commence l'immortalité. Puisque la forme même d'une Église cesse d'exister du fait que le lieutenant de Dieu sur la terre, avec tous les humains qu'il a élevés jusqu'à lui, en qualité de citoyen céleste, forment une seule classe, et puisque Dieu est ainsi, tout dans tout. Note. Cette expression peut vouloir dire, laissant à part ce qu'elle contient de mystérieux, ce qui dépasse en elle toutes les limites de l'expérience possible, et se rapporte simplement à l'histoire sainte de l'humanité, sans nous concerner par suite pratiquement sous aucun rapport. Cette expression peut vouloir dire, dis-je, que la foi historique, qui, en sa qualité de croyance d'Église, a besoin d'un livre sacré pour servir de lisière aux hommes, mais qui justement pour cela entrave l'unité et l'universalité d'Église, s'éteindra d'elle-même et cédera la place à une foi religieuse pure, qui brillera pour tout le monde également. C'est à faire arriver ce jour qu'il nous faut travailler dès maintenant, avec application, en dépouillant constamment la religion pure de la raison de cette enveloppe qui, pour le moment, lui est encore indispensable. Il faut vouloir non qu'elle disparaisse, car peut-être il se peut qu'elle soit toujours utile et nécessaire comme véhicule, mais qu'elle puisse disparaître. C'est seulement ainsi que l'on peut se croire arrivé à la fermeté intérieure de la foi morale pure. Fin de la note, retour au texte. Cette représentation du monde à venir, qui nous est donnée sous la forme d'une narration historique, sans être elle-même une histoire, est un bel idéal de l'univers converti enfin tout entier à la moralité. Ainsi que le prévoit la foi, grâce à l'introduction de la vraie religion universelle, d'une période morale arrivée à sa perfection, non pas à la perfection empirique que nous pourrions embrasser d'un coup d'œil, mais à la perfection que nous devons toujours avoir devant les yeux dans notre marche continue et dans nos progrès vers le plus grand bien réalisable sur la terre, c'est-à-dire vers le plus grand bien que nous puissions travailler à atteindre. Et il n'y a ici rien de mystique, tout cela naturellement se rapportant à la façon morale. L'apparition de l'Antéchrist, le millénarisme, la prédiction de la fin du monde imminente peuvent avoir aux yeux de la raison un sens symbolique excellent, et l'idée de la fin du monde considérée comme un événement impossible à prévoir d'avance, la fin de la vie, par exemple, qu'elle soit proche ou éloignée, exprime fort bien la nécessité qui s'impose à tous de s'y tenir prêt constamment. Mais elle exprime en fait, si l'on attribue un sens intellectuel à ce symbole, la nécessité où nous sommes de nous regarder constamment et effectivement comme des citoyens élus d'un état divin, d'un état moral. Ouverture de guillemets. Quand donc arrivera le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ne se présente pas sous une forme visible. On ne peut jamais dire il est ici ou là, car, voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Fermeture de guillemets. Luc 17, 21 et 22. Note. Le royaume de Dieu dont il s'agit ici, ce n'est pas celui qui répond à une alliance particulière, un royaume messianique, mais bien un royaume moral, reconnaissable par la raison seule. Le royaume messianique devrait se prouver par l'histoire. Elle pourrait être messianique ou selon l'ancienne alliance ou encore selon la nouvelle. Or, c'est à remarquer, les partisans de l'Ancienne Alliance, les Juifs, se sont maintenus comme tels, quoique dispersés dans le monde entier, tandis qu'on voit d'ordinaire les autres hommes confondre leur foi religieuse avec celle du peuple où ils vivent disséminés. Ce phénomène semble si étrange à beaucoup de gens qu'ils ne peuvent se décider à l'estimer possible, selon le cours de la nature, mais qu'ils y voient une disposition extraordinaire des choses, en vue d'une intention divine spéciale. Cependant, quand un peuple a une religion écrite, des livres saints, et se trouve en contact avec un autre peuple qui n'a rien de pareil, mais uniquement des usages, c'était le cas de l'Empire romain, tout le monde civilisé d'alors, jamais il ne confond sa croyance avec l'autre. Il fait plutôt des prosélytes, après un temps plus ou moins long. C'est aussi parce qu'ils avaient des livres sacrés et parce que ces livres commencèrent à faire l'objet de lectures publiques après la captivité de Babylone, que les Juifs, à partir de ce moment, ne se virent plus reprocher leur penchant à courir après les faux dieux. La culture alexandrine, en particulier, qui dut avoir sur eux de l'influence, put leur être très favorable pour donner à ces livres une forme systématique. Les Parsis, sectateurs de la religion de Zoroastre, ont eux aussi, malgré leur dispersion, conservé leurs croyances jusqu'à nos jours, parce que leur distour possédait le Zend Avesta. Par contre, les Hindous, qui sous le nom de Bohémiens ont été dispersés au loin, n'ont pas su se garder de mêler leurs croyances avec celles des autres peuples. Parce qu'ils formaient la lie de la population, parce qu'ils étaient les parias, auxquels il est même interdit de lire dans leurs livres saints. Et ce que les Juifs à eux seuls eussent été incapables de faire, la religion chrétienne et plus tard, le mahométisme, surtout la première, le firent. Car toutes les deux présupposent la croyance juive, et les livres saints qui en sont la base, bien que les musulmans les prétendent falsifier. Car chez les chrétiens, issus de leur secte, les Juifs pouvaient constamment retrouver leurs anciens documents. S'il arrivait que leur aptitude à les lire, et par conséquent le plaisir de les posséder, eussent, pour plusieurs raisons, disparu au cours de leur pérégrination. Il leur suffisait de se souvenir qu'ils avaient autrefois eu de tels documents. Et cela nous explique pourquoi l'on ne trouve des Juifs que dans les pays chrétiens ou mahométans, si l'on excepte ceux qui, en tout petit nombre, vivent sur les côtes de Malabar et la société juive existant en Chine. Il se peut que ceux de Malabar aient eu avec leurs coreligionnaires d'Arabie des relations commerciales constantes. Il n'est pas douteux cependant qu'il n'ait dû se répandre à l'intérieur de ces riches pays, mais comme il n'y avait aucune parenté entre leurs croyances et celles de ces pays, ils ont tout à fait oublié la leur. Quant à fonder les considérations édifiantes sur la conservation du peuple juif et de sa religion, au milieu de circonstances si désavantageuses à l'un et à l'autre, c'est un procédé très scabreux, parce que les deux parties croient chacun y trouver leur compte. Les uns voient dans la conservation du peuple auquel ils appartiennent, et dans le fait que, malgré sa dispersion au milieu de races si différentes, ce peuple a pu garder son ancienne foi sans mélange, la preuve d'une providence bienveillante particulière qui réserve ce peuple pour régner un jour sur la terre. Les autres y voient seulement des ruines qui nous informent qu'un État a été détruit parce qu'il s'opposait à l'avènement du règne céleste et qu'une providence particulière prend soin de toujours conserver intact, soit pour mieux graver dans nos cœurs l'ancienne prophétie annonçant qu'un Messie doit naître de ce peuple, soit pour nous montrer un exemple de la juste punition appliquée par elle à un peuple qui s'obstina à se faire du Messie une conception politique et ne voulut pas s'en faire un concept moral. Fin de la note, retour au texte. Remarque générale. Quelle qu'en soit l'espèce, dans toutes les croyances relatives à la religion, quand il veut étudier leur nature intrinsèque, l'esprit se heurte immanquablement au mystère, à quelque chose de saint que chacun, pris à part, peut sans doute connaître, mais non point publier. C'est-à-dire qu'il n'est pas universellement communicable. En tant que saint, le mystère doit être une chose morale et par suite un objet du domaine de la raison, que nous puissions connaître intérieurement de façon suffisante pour l'usage pratique. Mais en tant que mystère, il n'est pas accessible à la raison spéculative, car s'il n'était, il devrait être aussi communicable à tous, et par suite pouvoir être extérieurement et publiquement démontré. La croyance qui porte sur une chose qu'on doit pourtant regarder aussi comme un saint mystère peut être envisagée soit comme une croyance d'inspiration divine, soit comme une croyance émanée de la raison pure. À moins d'être contraint par la plus extrême nécessité d'admettre la première espèce de croyance, nous aurons pour maxime de nous en tenir à la seconde. Les sentiments ne sont pas des connaissances, et par suite, ne dénotent pas non plus de mystère. Et les mystères ayant rapport à la raison, bien qu'ils ne soient pas toutefois universellement communicables, c'est uniquement dans sa raison propre que chacun devra les chercher, le cas échéant. Il est impossible de décider a priori et objectivement s'il y a ou non de pareils mystères. C'est donc sur le côté intérieur, subjectif de notre disposition morale qu'il nous faudra porter immédiatement nos recherches pour voir si se trouve en nous rien de tel. Nous ne devons pas cependant mettre au nombre des saints mystères les fondements de la moralité qui sont pour nous impénétrables. Parce que c'est là quelque chose qui se laisse communiquer publiquement, bien que la cause nous en soit cachée. Mais seulement ce qui nous est donné comme connaissance, sans pouvoir cependant être communiqué publiquement. Ainsi la liberté. Cette propriété que révèle à l'homme la capacité qu'a son libre arbitre d'être déterminé par la loi morale absolue, n'est pas un mystère attendu que la connaissance en peut être communiquée à tous. Ce qui est un mystère, c'est le principe, insondable pour nous, de cette propriété, parce qu'il ne nous est pas donné de le connaître. Mais c'est cette liberté, elle seule, qui, appliquée à ce qui constitue l'objet final de la raison pratique, à la réalisation de l'idée de la fin morale suprême, nous mène immanquablement à de saints mystères. Note. Ainsi, la cause de la pesanteur universelle de tout ce qui est matière en ce monde nous est inconnue, à tel point qu'on peut même affirmer qu'on ne la connaîtra jamais, parce que déjà son concept présuppose une force motrice primitive et absolument inhérente au corps. Et pourtant, loin d'être un mystère, la pesanteur peut être rendue manifeste pour tous, attendu que la loi en est suffisamment connue. Lorsque Newton nous la donne, pour ainsi dire, comme l'omniprésence de Dieu dans le monde des phénomènes, ce n'est pas qu'il prétende ainsi nous l'expliquer. L'existence de Dieu dans l'espace, en effet, contient une contradiction. Mais c'est toutefois en vertu d'une sublime analogie qui donne, pour principe, au tout, formé dans l'univers par la réunion d'êtres corporels, seule chose qu'on ait en vue, une cause incorporelle qui les unit. Et l'on procéderait de même si l'on cherchait à voir le principe autonome qui réunit en un état moral les êtres du monde ayant la raison, et si l'on expliquait leur union de cette manière. La seule chose que nous connaissions, c'est le devoir qui nous pousse à cette union. Mais l'effet auquel nous visons est-il réalisable, même si nous écoutons le devoir? Voilà qui dépasse totalement les limites de notre vue. Il y a des mystères, des arcanes. Il peut y avoir des mystères, des secrets, de la politique, qu'on ne doit pas faire connaître à tous. Mais les uns et les autres, étant donné qu'ils ont des causes empiriques, peuvent cependant nous être connus. Dans les choses qu'il est de notre devoir à tous de connaître, dans celles qui ont trait à la moralité, il ne peut pas y avoir de mystère. Et c'est seulement dans les choses qui sont du ressort de Dieu seul, et où nous ne pouvons rien par nous-mêmes, car cela dépasse notre pouvoir, par conséquent aussi notre devoir, qu'il peut y avoir un mystère proprement dit, c'est-à-dire un mystère saint de la religion. Il peut nous être utile de savoir seulement qu'il existe de tels mystères et de comprendre qu'ils s'imposent à nous, mais non point de les pénétrer. Fin de la note, retour au texte. L'homme, par lui-même incapable de réaliser l'idée du souverain bien, non seulement sous le rapport du bonheur qui en fait partie, mais eu égard encore à l'union nécessaire des hommes en vue du but total, alors que cette idée se trouve inséparablement liée à l'intention morale pure, et sentant toutefois qu'il est de son devoir de contribuer à cette œuvre, cet homme donc se trouve amené à cette croyance que le maître moral du monde coopère avec lui, ou a tout disposé pour rendre cette fin possible, et dès lors, devant nous s'ouvre l'abîme d'un mystère. Nous ne connaissons pas ce que Dieu accomplit ici. Si nous pouvons lui prêter un rôle quelconque, ni ce que nous devons lui attribuer, en particulier, puisque la seule chose qui nous soit connue en chaque devoir, c'est ce que nous avons à faire par nous-mêmes pour mériter ce supplément qui pour nous demeure inconnu, ou du moins incompréhensible. Cette idée d'un maître moral du monde est un problème dont s'occupe notre raison pratique. L'important pour nous n'est pas de savoir ce qu'est Dieu en lui-même dans sa nature, mais ce qui naît pour nous en tant qu'êtres moraux. Il est vrai qu'eu égard à cette relation, nous devons concevoir et admettre en Dieu, comme choses essentielles à sa nature, les attributs qui, sous ce rapport-là, lui sont indispensables dans leur perfection absolue pour l'exécution de sa volonté, tels que l'immutabilité, l'omniscience, la toute-puissance, etc. Et qu'en dehors de cette relation, nous ne pouvons rien connaître de lui. Or, en vertu de ce besoin particulier à la raison pratique, la véritable foi religieuse universelle est la foi en un Dieu, premièrement, créateur tout-puissant du ciel et de la terre, c'est-à-dire législateur saint au point de vue moral. Deuxièmement, conservateur du genre humain, qui régit les hommes avec bienveillance et veille sur eux comme un père. Troisièmement, gardien de ses propres lois saintes et par conséquent, juste juge. Cette foi, à vrai dire, ne renferme point de mystère, n'étant que la simple expression des rapports moraux qui existent entre Dieu et le genre humain. Elle vient d'ailleurs s'offrir d'elle-même à n'importe quelle humaine raison, et c'est ce qui fait qu'on la trouve dans la religion de la plupart des peuples civilisés. Note. Les prophéties des livres saints qui décrivent la fin des choses nous parlent d'un juge du monde, qui reconnaîtra comme sien et rangera sous sa domination, après les avoir séparés des autres, ceux qui feront partie du royaume du bon principe. Il nous le représente non comme Dieu, mais bien comme le Fils de l'homme. Cette appellation qu'ils emploient semble indiquer que l'humanité elle-même, consciente de ses bornes et de sa faiblesse, voudra procéder à ce choix. Ce qui nous présage une bienveillance dont pourtant la justice n'aura pas à souffrir. Au contraire, le juge des hommes, si nous l'envisageons dans sa divinité, c'est-à-dire comme l'Esprit Saint, qui parle à notre conscience, par la loi que nous disons sainte, ainsi que par les actes que nous nous imputons, ne peut être conçu que comme appliquant dans ses jugements toute la rigueur de la loi, puisqu'ignorant nous-mêmes absolument le degré d'indulgence que pourra nous valoir notre fragilité. Nous n'avons sous les yeux que nos transgressions avec la conscience de notre liberté et des manquements aux devoirs qui sont pleinement notre faute, et que rien ainsi ne nous autorise à supposer de la bienveillance dans le jugement apporté sur nous. Fin de la note, retour au texte. Elle est impliquée, cette fois, dans l'idée d'un peuple considéré comme une république, car ces trois pouvoirs supérieurs doivent constamment y être conçus. Il y a cette différence qu'en ce qui nous occupe, nous prenons les choses moralement. Aussi pouvons-nous concevoir la triple qualité du souverain moral du genre humain comme étant réunie dans un seul et même être, alors que dans un état juridico-civil, ces attributs devraient nécessairement être répartis entre trois sujets différents. Note. On ne peut guère expliquer le motif qui a fait arriver tant de peuples anciens à se trouver ici du même avis, si l'on admet que c'est là une idée inhérente à toute raison humaine et qui se fait jour dès qu'on veut concevoir le gouvernement d'un peuple, et par analogie celui de l'univers. La religion de Zoroastre avait trois personnes divines, Hormuzd, Mitra, Ahriman. La religion hindoue aussi, Brahma, Vishnu, Shiva, il y a simplement cette différence que l'une fait de la troisième personne non seulement l'auteur du mal, regardé comme châtiment, mais encore du mal moral, qui mérite à l'homme ce châtiment, tandis que la seconde se borne à la représenter comme jugeant et punissant. La religion des Égyptiens avait aussi ces trois personnes, Phtah, Khnep et Neith, qui, autant que l'obscurité des documents relatifs au plus ancien temps de ce peuple, nous permet de le deviner, devait représenter l'une, l'esprit distinct de la matière, en tant que créateur du monde, l'autre, la bienveillance conservatrice et dirigeante, l'autre enfin, la sagesse, limitant cette bienveillance, ou autrement dit, la justice. La religion des Goths adorait Odin, père de l'univers, Freya, la bonté, et Thor, le dieu qui juge et châtie. Même les Juifs paraissent avoir adopté ces idées au dernier temps de leur hiérarchique constitution, car les pharisiens, accusant le Christ de s'être appelé fils de Dieu, ne semblent point faire peser spécialement leur inculpation sur la théorie que Dieu a un fils, mais uniquement sur ce fait que le Christ a voulu être ce fils de Dieu. Fin de la note, retour au texte. Mais étant donné que cette croyance, qui a purifié du nuisible anthropomorphisme le rapport moral des hommes à l'être suprême, au profit de la religion en général, et l'a rendue conforme à la juste moralité d'un peuple de Dieu, s'est présentée d'abord dans une doctrine de foi, celle du christianisme, qui, seule, l'a publiquement offerte au monde, il est bien permis d'appeler sa manifestation la révélation de ce qui était jusque-là pour les hommes un mystère par leur propre faute.